BPM Vernon 99.3.
Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission BPM Magazine. Je suis aujourd'hui avec deux représentantes de l'association Les Yeux Ouverts au studio de BPM. Bonjour mesdames.
Bonjour.
Alors, j'ai la fondatrice et la vice-présidente avec moi aujourd'hui. Je vais d'abord m'adresser à la fondatrice. Pourquoi a été créée l'association Les Yeux Ouverts?
Alors, tout d'abord, c'est un rêve d'enfant, c'était voyager. Et mon rêve d'enfant, j'ai dû attendre longtemps avant de pouvoir le réaliser. Et pour pouvoir le réaliser, je suis quelqu'un de relativement modeste sur un plan matériel. Donc, j'ai commencé à voyager avec mon sac à dos simplement et mes bonnes intentions. Alors, en tant que maman et infirmière, je me suis intéressée aux situations des personnes des pays que je visitais, des personnes en difficulté. Donc, j'ai commencé par aider moi-même avec mon propre budget. Donc, les pays de destination, ça a été les premiers pays que j'ai visités. Donc, ça a été en Inde, tout d'abord, dans une région himalayenne qu'on appelle le Zanskar, qui est une vallée du Ladakh. Après, ça a été Madagascar, ça a été l'Afrique. Et voyant les situations des populations, j'ai commencé à m'impliquer sérieusement pour aider les enfants à être scolarisés, à ne pas travailler, à ne pas avoir besoin de mendier ou de se prostituer. Et puis, les mamans, aider les mamans à gagner leur vie aussi. Et aider également les populations à avoir accès aux soins, tout simplement.
Et en tant qu'infirmière, forcément, on se sent encore plus
concerné. On est forcément concerné.
Avant de revenir aux premières actions que vous avez lancées avec l'association, je vais m'adresser à la vice-présidente. Vous y êtes arrivée comment à cette association?
Eh bien, j'ai connu Annick au bloc opératoire de Sainte-Marie à Vernon. Et elle m'a parlé de son association. J'ai mis un pied dedans. Et puis, à partir du moment où on a un pied dedans, toute la jambe y passe et tout le corps y passe. Le but me semblait suffisamment important pour que j'y adhère complètement et j'y ai embarqué mon mari, mon fils et puis voilà.
Vous avez embarqué toute la famille?
Pas toute la famille parce que ils avaient d'autres objectifs, mais au moins un fils qui a mis un pied dedans, bon, qui n'a pas pu rester très longtemps dedans parce qu'il avait d'autres obligations professionnelles et qu'il était à Paris, donc ça c'était pas très simple pour lui. Mais en tout cas, mon mari participe énormément aussi.
Vous étiez déjà investie dans l'associatif avant?
J'étais dans une association musicale à Passy-sur-Eure. Et bon, que j'ai abandonnée pour pouvoir m'investir plus dans l'association Les Yeux Ouverts.
Quelle a été la première action de l'association?
Ah, alors là, ça va être. Il va falloir que je cherche parce que les premières actions, j'ai commencé à les éparpiller au cours de mes premiers voyages, toute seule, sans association. Et j'ai continué au niveau de l'association. Donc. Disons que dans l'Himalaya, ça a été de soigner les gens sur place. Déjà, j'arrivais avec ce qu'il fallait. Et des fois, des gens arrivaient de vallées alentour, faisaient une journée de marche pour venir me rejoindre pour que je leur donne un doliprane, par exemple, tout simplement, ou des lunettes. Donc ça a été les premières actions que je peux dire qui étaient dans le sens de l'association. Après, sur Madagascar, j'ai commencé par m'intéresser aux jeunes filles qui se prostituaient. Donc ça a été essayer de sortir les jeunes filles de la prostitution, de cette forme d'esclavagisme, pour qu'elles puissent avoir accès à une éducation et choisir leur propre vie. Donc ça date vraiment de tout à fait le début de l'association.
Et après, en grosse action concrète, lorsque l'association a été créée?
Alors, à partir de la création de l'association, j'ai pu scolariser davantage de monde, j'ai pu prendre en charge davantage de soins. Et là, il faut aller voir sur l'historique du site, parce que depuis 2002, l'officialisation de l'association, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses qui sont passées.
Et comment ça se passe? Vous avez trouvé des mécènes, récolté des fonds pour créer des dispensaires sur place, des maisons d'accueil pour les jeunes filles? Ça se passe?
Voilà, il n'y a pas des dispensaires, il y a un dispensaire et ça a été bien difficile pour le mettre en place. Des maisons d'accueil, c'est une maison d'accueil pour les enfants de la rue à Madagascar. Trouver des mécènes, on a cherché, on n'a pas toujours trouvé. Donc, ce sont les donateurs privés qui nous donnent. Et puis, j'ai surtout mis en place des parrainages d'enfants.
J'ai demandé si vous...
Voilà, donc là, il a fallu trouver des parrains marraines. Et puis, évidemment, c'est un puits sans fond, puisque quand on a fini d'aider un enfant, on en prend un autre. Et puis, on a toujours des propositions. Évidemment, on peut toujours étendre notre travail à davantage de monde. Et... Sinon, on n'a jamais été vraiment sponsorisé par qui que ce soit, ni quoi que ce soit. On vient de recevoir une aide par une société dans laquelle travaille la fille d'une de nos membres. Sinon, on a eu une fois une aide ponctuelle par la région qu'on a dû rendre. C'était pour un projet d'école en Côte d'Ivoire. Et ce projet n'a pas pu être mené à bien à cause des événements à l'époque, des événements politiques qu'il y a eu. Donc, c'est tombé à l'eau et on a rendu l'argent qu'ils nous avaient octroyé.
Est-ce que vous pouvez expliquer à nos auditeurs qui ne connaissent pas le système de parrainage ce que c'est ?
Alors, parrainer un enfant, c'est simplement mettre un enfant à l'école, surveiller sa scolarité, surveiller son environnement familial, parce qu'on a beaucoup d'enfants qui sont soit orphelins, soit d'une maman seule qui a été abandonnée, des fois avec une tripotée d'enfants, qui à chaque fois espéraient trouver l'homme qui allait prendre tout le monde en charge et puis qui se retrouvait de nouveau enceinte. Donc, parrainer un enfant, c'est vraiment lui permettre d'aller à l'école, voire de continuer des études supérieures. Et on a quelques cas qui nous font très très plaisir. C'est vraiment le suivre et lui donner une chance de s'en sortir, de sortir de la misère et de se prendre en main, de se responsabiliser et de ne pas tendre la main dans la rue.
Alors, depuis le nombre d'années que vous avez ces actions, est-ce qu'il y a des gamins que vous avez sauvés il y a bien des années qui sont devenus des adultes aujourd'hui, qui s'investissent
complètement
dans vos projets ?
Complètement. On a actuellement, alors il y en a plusieurs, hein, je ne vais pas tous les citer, mais là je cite en permanence toujours mon propre filleul, qu'on a pris à l'école. C'est un orphelin d'une famille de 11 enfants qui ne pouvait pas aller à l'école et on l'a pris depuis la petite classe. Alors c'est une personne qui est allée à Madagascar et qui a rencontré notre référente. Et c'est elle au départ qui a demandé si on pouvait parrainer ce gamin. Donc on autorise toujours les gens qui vont voir sur place à nous proposer, hein, quand ils voient des situations difficiles. Donc par le biais de cette femme, on a fait connaissance de ce gamin qui en voulait vraiment beaucoup depuis le début. Cette femme a arrêté de le parrainer et on a continué à le soutenir. On lui a octroyé un double parrainage pour qu'il puisse monter sur Tananarive et faire des études en étant logé, suivi, etc. Et actuellement, il est médecin. Il est médecin et il s'implique à fond dans l'association. C'est-à-dire que quand on a un cas médical, c'est lui qui s'en occupe, c'est lui qui met en relation avec les professeurs. C'est ainsi qu'on a pu faire opérer une petite jeune femme dans le courant de l'année d'une opération cardiaque. Là, on vient de faire opérer un gamin qui a perdu un œil. Maintenant, on va voir pour l'appareil avec un œil de verre. Il surveille à l'arrivée des colis qu'on arrive à envoyer la répartition de tout ce qui est médical. Enfin, il s'investit énormément. Donc on a cet exemple-là, on a l'exemple d'une jeune infirmière aussi qu'on a aidée, qui s'investit également sur le plan médical. Là j'ai été tout à l'heure en communication par Messenger avec une jeune femme qu'on a sauvée d'une leucémie autrefois en lui procurant, avec le personnel de Vernon d'ailleurs, médecin anesthésiste de Vernon et puis ancienne pharmacienne de Vernon, on lui a procuré autrefois tout le traitement antiméthotique, tout ce qu'il fallait pour la sauver de sa leucémie. C'est maintenant une jeune femme mariée avec une petite fille magnifique et qui est en train de développer aussi des actions pour aider l'association et puis le travail qu'on fait.
Ça doit être, même, enfin, j'ai pas le mot, mais même pas une fierté, mais ça doit...
Ça fait plaisir tout simplement.
Ouais, c'est ça.
Comme j'ai dit tout à l'heure à cette jeune femme en tassoua,
la puissance...
Je lui ai dit, t'as énormément de place dans mon cœur et tout comme cette jeune femme qu'on a sauvée cette année avec cette opération cardiaque... C'est des gens qui ont leur place dans notre cœur et on s'investit beaucoup pour eux. L'année dernière, malheureusement, on a perdu un jeune homme pour qui on s'est battu pendant 4 ans pour lui obtenir une greffe de rein et il est décédé alors qu'il était en tête de liste par une infection de la machine de dialyse.
Rémy m'en a parlé lors de ma rencontre avec elle lors de l'interview au marché de Noël.
Donc on n'a pas que des réussites, mais c'est vrai que les réussites font très chaud au cœur, tout simplement.
Et puis ça stimule pour continuer.
Pour faire d'autres.
Ça donne la pêche, ça nous conforte dans notre action.
Mais c'est pas fait pour rien.
Tout à fait.
Vous avez sauvé des rues, combien d'enfants ?
On les compte pas. Hein. On n'a pas cette... on a monté des très bonnes équipes sur place. Donc c'est aussi pour ça qu'on réussit. Hein. C'est parce qu'on a des équipes sur place qui contrôlent tout ça. Alors ça demande aussi d'y aller aussi régulièrement.
J'allais vous demander, parce que ça doit demander une sacrée gestion quand même.
Ça demande d'y aller, d'aller contrôler. Il m'est arrivé de renvoyer des référents parce que je voyais que ça battait de l'aile ou ils cherchaient un petit peu leur intérêt personnel avant celui de l'association. Donc ça demande une surveillance. Mais c'est vrai qu'à Madagascar, par exemple, qui est vraiment notre pôle d'action le plus important, on a de très bonnes équipes. C'est très bien suivi et... Et ça, on peut dire que c'est le fruit d'un travail aussi, hein, c'est pas venu tout seul.
Et ici, sur le territoire français, vous êtes combien d'actifs au sein de l'association ?
Alors, nous, on est déjà un conseil d'administration 18, je crois. Hein, 18, on n'est pas toujours 18 aux réunions, hein, bien sûr. On est un bureau solide, on fait des réunions à peu près tous les un mois et demi, deux mois. Et puis sinon, globalement, dans notre listing d'adhérents, on est environ 300, mais il n'y a pas 300 qui se mettent toujours à jour dans leur cotisation. Mais bon, on a actuellement 180 enfants qui sont parrainés, à peu près à Madagascar. On en a une quarantaine en Inde. On en a plus que 8 en Côte d'Ivoire, parce que là, c'est pareil. On a eu des chagrins aussi. On a notre principale référente qui est décédée à 25 ans d'une fièvre typhoïde mal soignée. Donc depuis, ça va un petit peu au ralenti en Côte d'Ivoire. Mais on a maintenu les parrainages qu'on avait mis en place. Et là aussi, on a des universitaires. Donc ça nous fait plaisir. Des universitaires et des jeunes qui en veulent et qui sont... soit orphelin, les deux sont orphelins d'ailleurs, les deux universitaires de Côte d'Ivoire. Et qui réussissent au concours, il y en a un qui doit entrer pour préparer un master au Burkina Faso. Donc on est en train de se débattre pour essayer de trouver le moyen de l'aider à financer ça.
Vous y allez régulièrement toutes les deux, vous rendre compte sur place?
Je te laisse répondre.
Annick, oui, va très régulièrement. Moi non, je voyage pas.
Claire voyage avec nous à travers les textes et à travers le travail qu'on fait.
Et à travers les ventes des objets.
Voilà. Et les ventes des objets, Claire, est très très précieuse, parce que pour arriver à financer tout ça, on fait donc, toutes les opportunités sont bonnes pour essayer de vendre de l'artisanat, des choses qu'on rapporte de nos voyages, en plus des dons. Hein, on a besoin de ça pour financer en particulier les soins médicaux. Et c'est Claire qui est une responsable top niveau de tout ce qui est côté vente, artisanat, réception.
C'est ça, ça me fait voyager.
Beaucoup de travail, beaucoup de travail.
Néanmoins, il y a de très jolies choses.
Voilà. Très jolies choses. Il y en a moins depuis qu'on a fait le marché de Vernon.
Oui, mais on attend, parce que maintenant, on est bien rodé. Donc, on a une personne qui est membre d'une autre association à laquelle j'appartiens, une association médicale à Madagascar, qui nous ramène les choses qu'on commande. Donc elle y va régulièrement et ça nous permet... On a fait un bon réseau là maintenant. Pour l'Inde et le Zanskar, la région himalayenne ou l'Inde, on a régulièrement, si je n'y vais pas moi-même, j'ai d'autres personnes qui sont membres d'une autre association à laquelle j'appartiens aussi et qui y vont. Donc c'est pareil, on arrive à... C'est assez bien huilé maintenant, on peut dire, hein, ça tourne. Quand on a besoin de choses, on demande et puis...
Est-ce que ce n'est pas aussi un travail au niveau logistique sur est-ce qu'il vous faut des autorisations spécifiques pour apporter des médicaments, pour avoir une action médicale sur un territoire qui n'est pas le vôtre?
Alors, médicaments, c'est clair, c'est interdit. Donc, on arrive à faire parvenir des médicaments pour les gens qui vont là-bas, dans leur sac de voyage, hein, tout simplement. En général, j'ai jamais eu de soucis. Moi, je suis passée plusieurs fois avec carrément des cartons de médicaments. Mais j'ai de la chance. Je suis passée, j'ai été une fois arrêtée par les douaniers, ils ont contrôlé, ils ont dit « là là, c'est formidable ce que vous faites », et puis ils m'ont félicité. Bon, mais il suffit de tomber sur un douanier qui ne soit pas conciliant, et donc on est très prudent pour les médicaments. Pour le matériel médical et pour le matériel qu'on envoie, alors là c'est pareil, il faut être un peu discret, parce qu'en fait on a une société qui nous offre l'opportunité de faire le transfert depuis Marseille jusqu'à Madagascar, jusqu'à Tamatave. Et ensuite, maintenant, ils nous livrent carrément chez nos référents à Ivat, près de Tananarive, enfin à l'aéroport, gratuitement. Donc ça, c'est déjà énorme. Alors, il fait ça parce qu'il est marié avec une dame malgache. Enfin, c'est plus lui maintenant, parce qu'il a pris la retraite, mais il a passé les consignes. Et donc, pour l'instant, on le fait parce que c'est possible. Quand ce sera plus possible, on cherchera d'autres solutions. Mais ça fait maintenant 5 ans qu'on le fait, hein.
Oui.
Qu'on envoie à peu près 20 mètres cubes de matériel. Oui. Alors au début, on m'avait dit, mettez dedans des choses qui ne se voient pas trop au scanner. Et puis l'année dernière, on a quand même envoyé un lit médical électrique.
Un fauteuil électrique.
Des fauteuils électriques, du matériel médical, ce qu'on peut récupérer d'utile. Quoi. Du matériel informatique.
Ce que vous récupérez comme don ou via les ventes d'objets, ça vous suffit à pouvoir fournir?
Non. Là, c'est simplement des collectes à droite à gauche. Ça n'a rien à voir avec les ventes d'objets. Les ventes d'objets nous permettent de payer les soins médicaux en particulier, ou les urgences.
Et comment on fait pour organiser des collectes de médicaments, par exemple?
Alors on ne collecte pas les médicaments.
Non, ça ne se fait plus dans les pharmacies. Avant, je le faisais dans les pharmacies, mais ils n'ont absolument plus le droit. Donc ça, c'est du bouche à oreille. C'est simplement
c'est
autour de
tiroir
nous.
De...
Et en fait, on ne privilégie plus l'envoi de médicaments. Parce que par exemple, pour fournir notre dispensaire, on achète sur place, hein, dans une coopérative pharmaceutique.
Est-ce qu'il y a d'autres idées de projets? Forcément, il doit y en avoir pas mal, mais un projet qui pourrait arriver dans l'année à venir ou dans les 2-3 années à venir?
Pour la deuxième maison des enfants?
Oui, on aimerait bien faire une deuxième maison d'accueil parce qu'on a une maison d'accueil qui accueille pas loin de 30 enfants maintenant, d'enfants de la rue. Alors ça, c'est magnifique. Si vous allez sur le site, vous verrez les photos parce que c'était des gamins qui mendiaient autrefois, qui étaient habillés en loc, enfin, mais pieds nus et tout. Et maintenant, ils sont propres, ils sont bien nourris, ils ont une bonne mine, ils sont préparés à l'école, ils savent déjà lire et écrire quasiment quand ils vont à l'école. Ils jouent, enfin bon, ça nous fait extrêmement plaisir. Mais le problème, et c'est ce que dit Jacques, notre principal correspondant là-bas, et qui a monté cette première maison d'accueil, parce qu'il faut être sur place hein, pour ce genre de choses, c'est pas simple, c'est pas évident. Donc oui, on aimerait bien qu'il y en ait d'autres qui s'ouvrent. Par contre, on a mis l'accent cette année pour arriver à pérenniser l'action qu'on appelle « Je mets un enfant à l'école ». C'est-à-dire que c'est une action de scolarisation simple, qui n'est pas un parrainage, parce qu'on a du mal à trouver des parrains aussi. Hein, donc,
on va développer sur le parrainage les...
Oui. Donc l'action « Je mets un enfant à l'école », on demande aux gens 20 euros pour une année. Ça permet de payer les frais d'inscription, l'uniforme, les frais de fourniture scolaire. Et on surveille quand même les enfants tout au long de la scolarité. Après, les cas les particulièrement difficiles, on les met comme candidats au parrainage. Mais comme on ne trouve pas toujours suffisamment de parrains, on a mis cette action en place. Et de cette action, on a commencé par 30 enfants, 50 enfants, et on en a, là, la dernière rentrée, on en a mis 159 à l'école. Donc, on veut pérenniser.
Ça fait toute une école de scolariser grâce à l'action d'assistance.
Voilà, mais sur les différents sites, c'est partagé sur les différents sites. En fait, on a nos référents sur place, dont des assistantes sociales, vont chercher les gamins dans la rue et puis les mettent à l'école. Donc, avec ce système, globalement, à peu près 20 euros par enfant, on arrive à mettre un enfant un an à l'école. Alors évidemment, l'année d'après, il faut reprendre les mêmes, au moins. Mmh. Et puis, si possible, développer. Donc, on travaille plus sur la pérennisation de cette action parce que finalement, elle est efficace. Elle est très efficace même.
Donc, on parlait du parrainage tout à l'heure. On parlait de ce que c'était que le parrainage. Mais concrètement, dans l'action et financièrement, c'est quoi être parrain?
Alors, être parrain, c'est participer. Alors, on a fixé pour cette année. Maintenant, on a augmenté. Ça faisait 17 ans qu'on n'avait pas augmenté. On est passé à 160 euros par an pour parrainer un enfant. Plus les 20 euros d'adhésion qu'on a augmenté un petit peu aussi. C'était 15 euros avant. Donc, sur ces 160 euros, la quasi-totalité, je dis la quasi parce qu'on garde 1 euro pour justement prendre une avance pour les parrains qui oublient de payer. Mm-hmm. Pour qu'on n'arrête pas les parrainages.
Oui.
Parce que, donc, par le parrainage, le parrain assure que les frais scolaires vont être payés tous les trimestres parce que à Madagascar, ils ont ce qu'ils appellent les frais d'écolage. C'est-à-dire que suivant l'école, ils ont une certaine somme à payer tous les mois pour avoir le droit d'aller à l'école. Puis ils sont assez intransigeants. Hein. Un enfant qui n'a pas payé, on le met dehors.
Il y a certains pays d'Afrique où même il faut payer au jour le jour, tous les jours. Celui qui n'a pas payé ne rentre pas à l'école.
Oui, oui, c'est pareil à Madagascar. Donc là, on en a récupéré des fois qui étaient dans la rue alors qu'ils n'avaient pas pu payer tout simplement leurs frais d'écolage. Donc un parrainage, ça assure que vraiment l'enfant va avoir tous ses frais scolaires payés. Dans le parrainage, on considère aussi, l'enfant est très surveillé hein, par nos équipes, qu'on vérifie qu'il mange correctement, qu'il ait des conditions d'hygiène tout à fait correctes. Mais ça, on le fait aussi pour les autres enfants et puis pour tous les autres cas. S'il y a un problème médical, on intervient sans demander au parrain. C'est-à-dire que le parrain, on va le prévenir. S'il veut participer, il participera, mais il n'a aucun engagement par rapport à ça. Mais nous, on financera une intervention chirurgicale, un traitement médical, etc. D'où le besoin de faire entrer des fonds autrement. Voilà.
Cette interview va bientôt toucher à sa fin. Je vais vous laisser chacune à votre tour décider, nos auditeurs, à parrainer un enfant parce que, mine de rien, 160 euros, c'est une somme, certes, mais c'est pas grand-chose.
C'est déductible d'impôts.
C'est déductible d'impôts.
66% sont déductibles.
Des impôts pour le prix d'une paire de baskets de grande marque, là, on assure l'hygiène de vie, la scolarité d'un enfant sur une année. Quoi.
Et le suivi, parce que vous avez des enfants qui sont élevés par les grands-parents ou par la grand-mère, parce que la maman est décédée. Il y avait un ou des papas pour plusieurs enfants, et donc les grand-mères, elles sont âgées. Et quand une grand-mère décède, on prend la suite, on s'en occupe. L'enfant n'est pas abandonné. Donc ça, c'est aussi important. Au niveau d'un parrainage, on est vraiment engagé vis-à-vis d'un enfant pour qu'il ait les meilleures chances de s'en sortir.
Madame la vice-présidente, décidez nos auditeurs.
Comment vous décidez de participer au parrainage des enfants? C'est de leur permettre de rester aussi dans leur pays, de ne pas sortir de leur pays pour pouvoir évoluer et faire participer au développement de leur pays. quand je vois notre petit médecin, les infirmières qui restent et qui sont ardentes pour travailler pour nous, pour l'association, je me dis que là, on a gagné notre pari de les faire travailler pour eux.
Pour eux-mêmes.
Fait, pour eux-mêmes et pour leur pays.
C'est une grande chose, oui.
Voilà.
Je vous laisse le mot de la fin et puis on va rappeler aussi justement le nom du site internet
oui.
pour vous contacter.
Alors le site internet c'est www.lesyeuxouverts.org. Voilà, alors sur ce site vous allez trouver à la fois l'historique, vous allez trouver tout ce qui se passe maintenant, les comptes rendus de nos réunions, les assemblées générales et les récits de voyage. Alors là je m'applique à faire des récits très, très illustrés. Les gens en général disent c'est comme si on y était, donc... Et j'incite les futurs parrains, parce que j'espère qu'on va en récupérer, et les parrains actuels, j'incite toujours à aller voir sur place. C'est-à-dire que, contrairement à beaucoup d'associations qui veulent que ça reste un petit peu secret, nous c'est le contraire. Allez rencontrer vos filleuls, allez voir sur place, parce que je sais qu'après vous allez nous aider à fond. Voilà.
Oui, les récits de voyage écrits par Annick, c'est passionnant. Parce qu'en plus, quand vous voyagez avec elle, vous savez jamais sur quoi vous allez tomber.
Mais j'ai toujours de très bonnes surprises.
Ah oui, oui.
Oui, oui.
Très bonnes. Pas toujours, mais...
Quand même.
Donc, très enrichissante, sûrement.
Tant que ça reste une surprise, c'est bien.
Voilà. Il y en a qui me disent que je suis un peu folle, mais si j'étais pas folle, je ferais pas tout ça.
Ouais, c'est un signe d'intelligence, un grain de folie.
Voilà.
De toute façon. Merci à vous deux de m'avoir accordé du temps.
Ben merci, en tout cas.
Merci
de nous
à
avoir
vous
invité.
De nous avoir écoutés.
Ben, je vous en prie. Eh bien, n'hésitez pas, chers auditeurs, si... vous souhaitez en savoir plus sur l'association Les Yeux Ouverts et si vous souhaitez parrainer un enfant que l'association va suivre, eh bien rendez-vous sur leur site internet qu'on vous mettra nous sur notre page Facebook. En attendant, nous on se retrouve bientôt pour une nouvelle édition de votre BPM Magazine. Restez avec nous et passez une excellente journée à l'écoute de BPM.
BPM Vernon 99.3.